Éco, le rendez-vous des entreprises en Occitanie avec Mescar. Mescar, maison d'investissement et de conseil, partenaire d'Éco, est présent à Toulouse.
Bonjour, nous retrouvons cette semaine Amandine Billot, fondatrice et présidente d'AtoutCap. Je rappelle que vous êtes référente handicap, formatrice et consultante, experte sur le handicap et l'inclusion en entreprise. Vous êtes vous-même malvoyante. Lors du précédent numéro, nous avons découvert votre parcours professionnel, puis la genèse et l'histoire d'AtoutCap. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à vos clients et aux services que vous leur proposez. Et je salue Amandine Billot, que je retrouve dans le studio de Radio Présence pour ce deuxième numéro de la série dédiée à AtoutCap. Bienvenue madame.
Merci Eric, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, donc, on va parler des prestations que vous fournissez à vos clients et on va parler d'abord des clients d'AtoutCap, ceux qui ont recours à vos services. Est-ce que ce sont des entreprises de tout type, de tout secteur d'activité? Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a que des entreprises parmi vos clients?
Alors, il y a principalement des entreprises. Il peut m'arriver de travailler avec quelques collectivités, mais c'est quand même majoritairement des entreprises de tout secteur d'activité, puisque tous les secteurs d'activité sont concernés par l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, hein, qui est une obligation légale qui oblige toutes les entreprises à partir de 20 salariés d'avoir 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Donc, tous les secteurs d'activité sont concernés par cela. C'est au niveau de la taille, donc effectivement, en dessous de 20 salariés, ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas assujettis à cette obligation. Donc ça, en général, c'est des structures qui n'ont pas, en tout cas, besoin de moi. Parfois, ils ont quand même des travailleurs handicapés dans leurs effectifs, mais voilà, qui gèrent, ils n'ont pas forcément besoin de mes services. Et du coup, mes plus petits clients ont 50 ou 60 salariés. Voilà, c'est à partir de cette taille-là que les entreprises commencent à se préoccuper de ce sujet, que ça devient un enjeu pour eux.
Et ça concerne tous les secteurs d'activité, aussi bien l'industrie que l'artisanat, des sociétés de services, le tertiaire?
Oui, ça s'applique à toutes les entreprises, à tous les secteurs. Il peut y avoir des déductions, des particularités dans certains secteurs. En fait, sur certains métiers, il existe une liste de métiers qui permet d'avoir une... Alors, ce n'est pas une dérogation totale, hein, mais ça permet voilà, de réduire l'obligation, en tout cas. Mais globalement, quand même, oui, tous les secteurs restent concernés. Hein. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'exonération totale pour certains secteurs.
Combien d'entreprises ont eu recours à vos services depuis 2018? Est-ce qu'il y en a, par exemple, qui font appel régulièrement à vos services?
Oui, bien sûr, hein, j'ai des clients réguliers, fidèles. Certains qui font appel à moi tout au long de l'année pour mettre en place une vraie politique handicap en tant que, par exemple, référente handicap externalisée. Il y en a qui font appel à moi tous les ans, souvent au moment de, en fin d'année, hein, au moment de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, pour une sensibilisation, par exemple. Et puis, j'ai aussi de nouveaux clients régulièrement. Donc là, j'avais vu que j'ai entre 35 et 40 entreprises clientes depuis les débuts de mon entreprise.
Est-ce qu'on recrute de plus en plus de travailleurs handicapés dans le monde de l'entreprise? C'est-à-dire que plutôt que de payer un surcoût lorsqu'on ne souscrit pas à cette obligation hein, d'avoir un certain nombre de travailleurs handicapés dans son entreprise, est-ce que de plus en plus d'entreprises se tournent vraiment vers le travailleur handicapé parce qu'ils ont compris que c'était aussi une chance pour eux, une opportunité en tout cas?
Depuis presque 40 ans, hein, puisque la loi date de 1987, les entreprises ont cette obligation hein, d'avoir donc 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Et oui, ça s'améliore au fil du temps, lentement, mais ça s'améliore quand même. Aujourd'hui, on est malgré tout seulement à 3,7% en moyenne dans le secteur privé.
Oui. Alors, les services et les prestations que vous proposez, lors de notre premier numéro, on en a déjà un petit peu parlé. On va essayer de rentrer dans le détail. Donc, il y a par exemple des ateliers de sensibilisation au handicap. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous proposez à l'intérieur de ces ateliers?
Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir dédramatiser, rassurer, informer les collaborateurs des entreprises, les équipes. En fait, il y a deux objectifs. Hein. Souvent, les entreprises ont besoin de devenir handi-accueillantes. donc les gens n'aient plus peur de cette différence pour qu'ils accueillent au mieux de futurs nouveaux collaborateurs. Il y a un autre enjeu aussi, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entreprises où il y a des salariés en situation de handicap qui ne se déclarent pas. Et ça, il y en a beaucoup, hein. Il y a plusieurs raisons à ça. Ils ont peur d'être discriminés, d'être freinés dans leur carrière. Ou alors, certains n'ont pas l'information non plus, hein. Toutes les femmes qui ont de l'endométriose ou toutes les personnes qui ont du diabète ne savent pas qu'elles peuvent être reconnues travailleurs handicapés. Donc, l'objectif de ces sensibilisations va être double. Il va être vraiment de faire en sorte que l'entreprise devienne handi accueillante et aussi d'amener peut-être des gens finalement à demander ce statut-là en étant donc rassurés et informés aussi. Pour ça, une conférence ou quelque chose de très classique, de très descendant, ça marche moyennement, on va dire, parce que c'est pas un sujet très amusant. C'est un sujet qui même peut effrayer. Donc, il faut trouver d'autres formats pour être impactant et pour réussir à intéresser les gens. D'où des sensibilisations un peu différentes où on va proposer des jeux. Ça marche bien, hein, une approche ludique avec des quiz, des mémories, des blind tests, etc. Ou alors, ce qui fonctionne très bien également, ce sont des mises en situation. Donc, où on va, l'espace de quelques minutes, se mettre dans la situation d'une personne aveugle, par exemple. Hein. Moi, je propose des immersions dans le noir, mais j'en propose d'autres aussi, où il y a vraiment, où on peut tester, faire un petit défi, mais en étant en situation de handicap. Donc, se rendre compte mieux de ce que c'est la dyslexie, ou de ce que c'est le fait d'être malentendant, d'essayer de percevoir ce que ça peut être et ce que ça peut faire dans sa vie quotidienne. J'ai un large panel de sensibilisation impactante et je fais vraiment du sur-mesure selon le besoin de l'entreprise. Mais les jeux ou les mises en situation, c'est ce qui fonctionne quand même le mieux et ce que je propose le plus souvent.
Alors vous faites aussi, parmi vos prestations, il y en a une qui a pour titre « Recrutement inclusif et sous-traitance ». Qu'est-ce que ça recouvre ?
Oui, donc là, ça va être soit en sous forme de conseil, ou alors ça peut aussi être d'ailleurs sous forme de formation. Hein. Alors, il y a deux axes qu'on peut articuler indépendamment ou ensemble pour développer sa propre politique handicap. Une fois qu'on a sensibilisé ses équipes, on a aussi besoin de mettre en place un process de recrutement inclusif. Donc là, je vais effectivement soit conseiller, soit former l'équipe recrutement afin qu'ils apprennent, qu'ils sachent mieux en tout cas, attirer des talents travailleurs handicapés et des particularités éventuelles, comment on fait pour recruter une personne en situation de handicap. L'autre aspect, donc la sous-traitance, hein, c'est un autre axe dans une politique handicap, c'est de, en développant des achats responsables, donc en sous-traitant des choses à des structures qui n'emploient que des personnes handicapées, donc soit des ESAT, soit des entreprises adaptées, soit des TIH, donc c'est des travailleurs indépendants handicapés. Donc c'est trois types de structures qui n'embauchent qui ont des obligations d'avoir beaucoup de travailleurs handicapés. Quand une entreprise sous-traite, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être du ménage ou de l'entretien d'espaces verts, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus varié. Ça peut aussi être de la partie traiteur pour des événements, ça peut être même des développeurs web, etc. Une entreprise qui fait ça, c'est en quelque sorte de l'emploi indirect, et donc elle pourra aussi le déduire de sa contribution et donc l'intégrer à sa politique handicap. Et donc là aussi, il y a beaucoup de conseils et ou de formations à faire auprès des entreprises assujetties à l'obligation.
Alors, s'agissant des formations, d'ailleurs, vous proposez des formations en visio ou en présentiel. Et il y a plusieurs types de formations.
Oui, depuis la pandémie, on a développé le distanciel aussi. Ça peut être aussi très efficace quand on a une animation assez interactive. Et donc, je m'adapte aux besoins et aux attentes des entreprises en proposant ou du présentiel ou du distanciel selon leurs besoins. Et les formations, bah, elles sont principalement, alors soit orientées sur effectivement le recrutement, et là, ça peut être pour les recruteurs, mais aussi pour des managers qui vont être amenés à recruter, par exemple, hein. Je forme aussi régulièrement des référents handicap pour leur donner les clés pour pouvoir faire vivre leur politique handicap. Et j'ai souvent aussi des sessions sur le management des travailleurs handicapés, donc destinées là aux managers, afin qu'ils sachent mieux gérer des collaborateurs en situation de handicap au sein de leur équipe.
Et puis, en parlant des référents handicap, et ça c'est un service que vous proposez depuis peu, une newsletter, être référent handicap by A2CAP.
Oui, ça c'est une nouveauté 2026, donc c'est assez récent. Et l'idée, donc j'ai construit cette newsletter suite à une enquête que j'ai menée auprès de 174 professionnels qui ont répondu à mon questionnaire, dans lequel donc, j'avais essayé de comprendre leurs besoins et leurs attentes. Et l'idée, c'est vraiment de leur proposer un outil opérationnel pour leur donner des clés afin de faire vivre leur politique handicap. Le constat, c'est que comme les référents handicap sont obligatoires aujourd'hui dans les entreprises à partir de 250 salariés, il y a beaucoup de référents handicap débutants qui sont désignés parce qu'ils sont intéressés par le sujet et ils ont beaucoup d'ambition et beaucoup de bonne volonté. Mais parfois, ils n'ont pas eu l'opportunité ou le temps de se former sur le sujet et ont beaucoup de questions. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de leur donner chaque mois des visions d'experts et de leur partager des bonnes pratiques et de leur donner vraiment des idées afin de réussir à faire vivre leur politique handicap en interne.
Merci beaucoup à Amandine Pillot pour toutes ces précisions concernant les prestations que propose A2CAP. La semaine prochaine, pour notre troisième émission, nous allons évoquer les processus de recrutement de travailleurs handicapés et le discours que vous tenez aux entreprises pour les convaincre du bien fondé d'une politique handicap et d'inclusion. À bientôt donc.
C'était Écho, le rendez-vous des entreprises en Occitanie, en partenariat avec Mescar. Mescar, la maison d'investissement et de conseil, partenaire d'Écho, est présent à Toulouse.